Invite à ouvrir votre Bible ou vos téléphones, là où vous voulez, ce que vous voulez. Voilà, dans Esdras 2, la semaine dernière, je vous avais parlé d'Esdras 1. Je vous avais donné comme devoir de vacances, avec un petit peu d'humour, hein. Voilà, Esdras, Néhémie, Agé, Zacharie, et puis si vous aviez le temps, Daniel, voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez fait vos devoirs de vacances ou s'ils vont rester fermés durant cet été. Mais en tout cas, voilà, c'était simplement une invitation. Je crois que Esdras est pertinent pour nous en tant qu'Église parce que l'Église a toujours besoin d'être renouée et de renouer avec sa vocation et avec son appel. Nous avons toujours besoin de recommencement, de restauration, de renouveau et de réveil. Et Esdras est une histoire comme cela, c'est une histoire de recommencement, c'est une histoire de grâce, de pardon, de renouveau et de restauration. C'est l'histoire d'un nouveau commencement et une période de renouveau pour le peuple de Dieu. Après 70 ans d'exil et d'oubli, le Seigneur qui est fidèle à son alliance, le Seigneur lorsqu'il promet quelque chose, eh ben, va tenir sa promesse et il a annoncé sa parole d'avance au travers des prophètes de Jérémie et d'Ésaïe, eh bien Dieu tient parole et va faire revenir le peuple d'Israël en Israël. Et l'histoire du salut se poursuit. Alors avec Esdras et avec les autres livres du retour de l'exil, eh bien nous apprenons à vivre comment un renouveau peut être possible dans une fraîcheur de foi renouvelée. Et Dieu sait que nous avons besoin de fraîcheur en ce moment. Lors du culte précédent, alors pour ceux qui n'étaient pas là, et je vois qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui sont revenues de vacances, alors bienvenue chez vous, hein. Voilà. J'espère que vos vacances ont été profitables. Alors, je vais juste résumer en quelques mots ce que j'avais dit la semaine dernière avant de revenir sur Esdras chapitre 2. Donc, nous avons vu dans Esdras 1 que l'auteur du livre d'Esdras, et puis je crois que cet auteur a été inspiré par Dieu, que cet auteur a une vision haute de la souveraineté de Dieu sur l'histoire de l'humanité, puisque c'est lui qui va réveiller l'esprit de Cyrus, qui est quand même le roi de tous les rois de la terre à ce moment-là. C'est Dieu qui se met en mouvement et qui réveille l'esprit de Cyrus. Et c'est lui-même qui va aussi réveiller l'esprit de ceux qui vont participer au retour. Donc Dieu est à l'initiative de ce mouvement de l'histoire, conformément à ses promesses de restauration. Dieu, nous avons vu, est un Dieu souverain. Il règne sur les rois. Il est le roi des rois. Et il est également souverain sur les temps et sur l'histoire. Pas seulement souverain comme régnant de son ciel, mais impliqué et agissant dans l'histoire de l'humanité. Alors j'ai insisté particulièrement sur quelques dérives potentielles lorsqu'on parle de la souveraineté de Dieu. Par exemple, faire de la souveraineté l'attribut essentiel de Dieu. Dire que Dieu est souverain n'est pas suffisant. Nous avons aussi à conjuguer souveraineté et amour divin avec aussi la fidélité, la justice. Et ceci pour ne pas tomber dans la vision d'un Dieu souverain, mais qui serait arbitraire, qui agirait de manière arbitraire, je dirais, selon ses humeurs du moment. Nous avons également vu que souveraineté de Dieu n'ôtait en aucune manière la responsabilité des hommes, parce que nous ne sommes pas des marionnettes entre ses mains, que nous sommes responsables devant Dieu de nos choix, et que nous sommes appelés à vivre dans l'obéissance au Dieu souverain. Nous avons réfléchi aussi comment Dieu pouvait réveiller notre cœur, comme il a réveillé l'esprit de Cyrus ou l'esprit de ceux qui sont appelés à retourner. Et puis nous avons vu que le moyen que Dieu utilise, essentiellement, c'est bien sûr la lecture, écoute de la parole, de sa parole, et la prière fidèle. Et finalement, nous avions conclu notre méditation du chapitre 1 d'Esdras en disant combien c'est important dans notre vie, si nous voulons que nos vies soient réveillées, et aussi important pour la vie de l'Église, que cette pensée de la souveraineté de Dieu est importante parce qu'elle nous apporte confiance, assurance, réconfort, patience et aussi enthousiasme. Confiance, assurance, réconfort et patience lorsque nous traversons des épreuves individuelles ou communautaires, ou épreuves tout simplement parce que nous faisons partie de l'humanité. Nous savons que ces épreuves ne surprennent pas Dieu, que Dieu est présent avec nous dans ces épreuves, qu'il nous donne la force, qu'il nous rappelle son amour et qu'il nous dise que ces épreuves auront un terme, monte dans la barque. Aussi, nous pouvons faire face à la guerre, au Covid, à la variole du singe ou de je ne sais quoi, à la chaleur excessive, à la violence, à l'inflation, et aussi affirmer notre espérance en tant que chrétien. Et puis nous avons vu que voir la souveraineté de Dieu est aussi enthousiasmant, moteur et motivant, parce que Dieu aura toujours le dernier mot, n'est-ce pas ? Il est l'alpha et l'oméga, il est le premier et le dernier, et nous avons la grâce de participer à son dessein dans l'histoire du salut. Alors, c'était ce que j'avais dit la semaine dernière pour un peu raccrocher les wagons avec ceux qui n'étaient pas là. Et puis nous allons continuer notre histoire d'Esdras, le chapitre 2. Alors je vais vous faire l'économie de lire Esdras 2, parce que Esdras 2, c'est une liste de noms. Et une liste de noms, c'est assez rébarbatif à lire. Hein. Quand Paul a dit 2 Timothée 3,16, il y avait Jean 3,16, il y a 1 Timothée 3,16, il y a 2 Timothée 3,16, hein, André aussi. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, est-ce qu'il pensait à ces chapitres de liste ? Hein ? Bon, je pense que oui, je crois que oui, que Dieu a inspiré tous les auteurs et tous les passages de la Bible de manière intentionnelle. Hein. Alors peut-être il y a une valeur théologique un peu moindre que si nous lisons Romains 8 comparé aux listes de noms. Mais ce chapitre d'Esdras 2 est ainsi inspiré par le Saint-Esprit. Et je pense que nous allons y trouver quelques perles. Alors donc nous n'allons pas lire tout le texte. Je vais en lire quelques extraits. Je ne sais pas si, Nadège, tu peux les faire passer au tableau. Sinon, ce n'est pas grave, vous écoutez. Voici la liste des hommes originaires de la province de Juda que Nabucodonosor, roi de Babylone, avait déporté à Babylone et qui sont revenus de la captivité à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils revinrent sous la conduite de Zorobabel, Josué, Néhémie, Seraïa, Réalaïa, Mardoché. C'est pas le même. Néhémie et Mardoché, ce ne sont pas ceux que vous connaissez, hein, d'autres noms. Bilshan, Mispar, Bigvai, Réhum, Baana. Et voici le compte des Israélites. Hein. Et voici la liste qui se déroule. Verset 3, descendants de Paréoche, 2172. Descendants de Shephatia, 372. On passe au verset 21. Descendants de Bethléem ou fils de Bethléem, 123. Peut-être Zorobabel était compris là-dedans. Hein, et nous savons que notre Seigneur vient de Bethléem. Verset 23. Ressortissants d'Anatot, 128. Anatot était le village de Jérémie. Verset 36. Pour ce qui est des prêtres, descendants de Yedaïa, de la lignée de Josué, 973. Descendant d'Imer, 11052, le plus gros nombre de toute cette liste. Descendant de Parchour, 1247. Descendant de Harim, 1017. Pour ce qui est des Lévites, descendant de Josué, de Katmiel, du groupe familial de Hodavia, 74. Musiciens, descendant d'Azaph, 128. Important, les musiciens. Merci Jérémie. Et tous ceux qui ont chanté ce matin. Verset 64. La communauté entière de ceux qui étaient revenus de l'exil comprenait 42 360 personnes, sans compter leurs 7 337 serviteurs et servantes. Je ne savais pas qui comptait à cette époque-là, mais... Parmi eux se trouvaient 200 musiciens et chanteuses. Alors, ceux-ci, ce ne sont pas les musiciens qui sont descendants d'Azaf, ce sont les musiciens qui étaient des musiciens qui jouaient aux fêtes familiales, lors des mariages, lors des deuils, etc., des choses comme cela. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6720 ânes. Verset 68, « Lors de leur arrivée au temple de l'Éternel à Jérusalem, plusieurs chefs de groupes familiaux furent des offrandes volontaires pour la reconstruction du temple. Sur son emplacement, ils versèrent chacun, selon ses moyens, au fond des travaux, 61 000 pièces d'or, 5 000 pièces d'argent, plus 100 tuniques sacerdotales. Les prêtres et les lévites, les gens du peuple, les musiciens, les portiers et les desservants du temple, tous les Israélites s'établirent dans leur ville d'origine. » Alors voici là, le chapitre 2 d'Esdras. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce chapitre 2 d'Esdras ? Alors, j'ai un petit peu buté sur le verset 1, sur le verbe « revenir ». Revenir. Au verset 1, il nous est dit « ceux qui sont revenus de la captivité à Jérusalem et en Juda ». Alors, ce week-end, spécialement ce week-end, hasard du calendrier, la communauté juive jeûne. C'est le jeûne du Tesha B'Av, le 9 du mois d'Av. Ce jeûne est un jeûne de deuil et de retour sur soi, car on se rappelle en ce jour-là la destruction du temple, plutôt la destruction des deux temples, car selon la tradition juive, les temples furent détruits le même jour. Le premier temple construit par Salomon, le second temple qui a été rebâti par les exilés qui reviennent, qui a été agrandi par Hérode, eh bien, au moment de l'an 70, apparemment, c'était le même jour que la destruction du premier temple. Et durant ce deuil, même encore aujourd'hui, durant ce jeûne de Tisha B'Av, on fait la lecture en communauté des Lamentations de Jérémie, qui se conclut ainsi, et je vous invite, si vous avez votre Bible, à le lire, chapitre 5, verset 19, « Toi, Éternel, tu règnes à jamais, ton trône subsiste de génération en génération, souveraineté de Dieu. Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours? Nous abandonnerais-tu pour de longues années? Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Nous aurais-tu entièrement rejetés? Et t'irriterais-tu contre nous jusqu'à l'excès? Point d'interrogation, pas de réponse. Les Lamentations de Jérémie se terminent par une question qui semble sans réponse, comme en suspens dans le vide. Et pourtant, en Esdras 2, nous avons la réponse de Dieu à la question de Jérémie, et ils revinrent à Jérusalem. Et ils revinrent à Jérusalem. 70 ans après, ils revinrent à Jérusalem. Avant de revenir à Jérusalem, il a fallu revenir vers Dieu. Et revenir vers Dieu, en hébreu, c'est le même sens, le même verbe, qui veut dire se repentir. Et revenir à Jérusalem, c'est aussi se tourner vers Dieu. Revenir vers Dieu a le sens de repentance. Le verbe « se repentir » est un chemin de retour vers Dieu. Comme le fils prodigue qui a dit « je me lèverai, j'irai vers mon père » ou, si vous voulez, « je m'en retournerai vers mon père et je lui dirai « mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi ». Jérémie, dans ses lamentations, demande à Dieu de donner la repentance à son peuple. « Fais-nous revenir à toi et nous reviendrons à toi ». Fais-nous revenir à toi. Donne-nous la repentance et nous nous repentirons. La repentance, mes frères et sœurs, c'est une grâce et c'est un moyen de fraîcheur dans le cœur pour le peuple de Dieu. Parce que la repentance est donnée par Dieu comme un effet de sa bonté. C'est la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance, nous dit l'apôtre Paul. Pourquoi est-ce que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance ? Parce que Dieu est juste et bon. Juste seulement ? Non, juste et bon. S'il était que juste, nous serions condamnés ? Mais parce qu'il est bon, il nous pousse afin que nous voyions que notre condamnation est tombée sur la personne du Christ, sur la victime innocente, notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, par l'intermédiaire de sa parole qui vient toucher notre cœur, nous confessons nos fautes et nous demandons pardon à Dieu. Nous ne cherchons pas d'alibi. Nous ne cherchons pas d'excuses. Nous ne cherchons pas à nous justifier nous-mêmes. Nous n'avançons pas devant Dieu avec nos mérites, avec nos actions propres, avec nos bonnes actions. Nous acceptons le jugement de Dieu sur nous. Et là, dans cette posture, nous entendons le Seigneur nous dire « Relève-toi, toi qui demandes pardon. J'ai payé pour toi. Relève-toi parce que je t'ai pardonné. Relève-toi parce que je t'ai sauvé. Relève-toi parce que tu peux tout recommencer avec moi. J'ai lavé ta robe. Je te revais de ma justice. » Nous nous repentons une fois lorsque nous devenons chrétiens pour notre état de pécheur, mais nous nous repentons chaque fois que cela est nécessaire. Chaque fois que nous péchons, chaque fois que nous tombons, chaque fois que la sainteté de Dieu est mise à mal par nous, nous pouvons revenir à lui et demander pardon. Esdras 2 nous rappelle aussi notre vocation. Nous avons vu à la lecture que sur les 50 000 personnes qui sont revenues à Jérusalem, à peu près 50 000, la plupart étaient des prêtres ou des personnes liées au temple. À la louche, 14 000 prêtres, en grand nombre, avec des lévites, des portiers, des musiciens, des serviteurs de Salomon. Ça fait une sacrée caravane. 4 mois pour aller de Babylone à Jérusalem. 50 000 personnes avec je ne sais plus combien de chameaux, je n'ai plus retenu le chiffre, d'ânes et de chevaux. Quelqu'un qui voit passer cette caravane s'arrête et interroge un de ceux qui participent à la caravane. « Et toi, qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu? Où vas-tu? Pourquoi fais-tu ce voyage ?» La personne de la caravane dirait « Mon bon monsieur, nous sommes des Juifs, des Judéens, et nous appartenons au peuple de Dieu. C'est ce que je suis, un membre du peuple de Dieu. Le seul et unique vrai Dieu, l'Éternel nous a choisis comme peuple pour lui appartenir en propre, pour manifester sa gloire et pour témoigner de lui, pour apporter sa lumière à toutes les autres nations. Vous savez, mon bon monsieur, ce Dieu est entré dans une relation d'alliance avec nous. Et nous lui appartenons en propre. Et vous savez, mon bon monsieur, c'est notre péché qui a causé notre exil. C'est parce que nous l'avons abandonné. Et conformément à son alliance, au contrat que nous avons fait avec lui, il nous a amenés en exil. Et pendant 70 ans, mon bon monsieur, nous avons suspendu nos harpes sur les rives de Babylone. Nous ne pouvions chanter les cantiques de Sion là-bas. Mais vous savez, mon bon monsieur, notre exil touche à sa fin. Il nous a rappelés à lui après que nous nous sommes repentis. Et nous retournons vers Dieu et nous retournons vers Jérusalem, la ville qui s'est choisie pour porter son nom, pour accomplir notre vocation, pour rebâtir son temple, pour être des prêtres pour Dieu. C'est un long et dur chemin et c'est ce qui nous attend. Voilà comment aurait répondu un membre de cette caravane à quelqu'un qui lui aurait posé la question. Où vas-tu? Que fais-tu? Où vas-tu? Esdras, c'est un livre qui nous parle de grâce, de pardon, de renouvellement et de restauration. Le prêtre interrogé a répondu qu'il partait à Jérusalem pour accomplir sa vocation parce que Jésus n'était pas encore venu, n'est-ce pas? Parce que personne n'avait dit encore l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Jésus est venu. L'Évangile nous a atteints. Nous sommes devenus des prêtres pour Dieu. C'est ce que l'Évangile nous dit. Les gens sont partis de la tranquillité de Babylone, de leur quiétude de vie. Que ne fait-on pas en 70 années ? J'ai 63 ans bientôt. J'ai construit une maison, j'ai eu des enfants, j'ai eu des petits-enfants. J'ai eu un travail, j'ai grandi dans mon travail, j'ai progressé dans mon travail. C'est ce qu'ils ont fait pendant 70 ans à Babylone. Mais quand le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, a touché leur cœur, a réveillé leur esprit, eh bien, ils ont laissé tout ça. La maison construite, peut-être leurs enfants, peut-être leurs petits-enfants, peut-être leur métier, peut-être leur commerce. Et ils sont retournés à Jérusalem. Alors, quelle leçon pour nous ? Nous portons le nom de chrétien. Vous portez le nom de chrétien. Qu'est-ce que cela veut dire ? Que nous suivons le Christ, n'est-ce pas ? Avons-nous conscience que nous portons une vocation lorsque nous disons que nous sommes chrétiens ? Sommes-nous fiers de porter le nom de chrétien ? Êtes-vous fiers de porter le nom de Christ sur vous ? Vous portez une vocation. Ou portons-nous ce nom au même titre qu'un autre ? Je suis boulanger, je suis maçon, je suis avocat, je suis père de famille. Je suis chrétien, qu'est-ce que cela veut dire ? Jésus dit à ses disciples, une phrase énorme, j'ai percuté cette semaine dans mon culte personnel sur cette parole. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà le programme de chrétien. Qu'il renonce à lui-même, lorsqu'on a demandé à Pierre, au moment du procès de Jésus, es-tu de ses disciples ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a renié le maître par trois fois. Eh bien, c'est le même mot qui est dit, qu'il renonce à lui-même, qu'il renie à lui-même en grec. C'est-à-dire que chaque fois que vous suivez le Christ, vous avez non pas à renier le maître, mais à vous renier vous-même. Mais Norbert, je ne le connais plus. Norbert, je ne le connais pas. Lorsque devant le choix de Dieu, j'ai à dire, mais je ne connais pas Norbert. Je veux suivre Jésus. Je ne veux pas suivre Norbert. Et vous pouvez mettre votre nom à la place. Si tu veux suivre Jésus, renonce à toi, renie-toi toi-même, puisque c'est le même sens en grec, et suis-moi. Charge-toi de ta croix et suis-moi. Alors nous voulons un renouveau dans nos vies, nous voulons un renouveau de fraîcheur dans notre Église, nous avons à renouer avec cette vision du Dieu souverain, nous avons renoué aussi avec cette vision de la repentance, lorsque Dieu nous appelle à nous repentir, eh bien allons-y, sans chercher des excuses ou quoi que ce soit, et venons aussi à reprendre conscience que Dieu nous a appelés les uns et les autres à manifester sa gloire, à être des prêtres pour Dieu, parce que c'est notre vocation. Il n'y a plus de prêtres dans le Nouveau Testament, ou il n'y a que des prêtres dans le Nouveau Testament plutôt. Quelle est la vérité sous-jacente de ces versets lorsque dans Apocalypse 1, verset 6, il nous est dit « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et la puissance au siècle des siècles. » Qu'est-ce qu'elle est la vérité sous-jacente ? Comme prêtre, nous avons accès au trône de la grâce par Jésus-Christ, le seul souverain prêtre, le grand souverain sacrificateur. Nous avons accès au trône de grâce. Cela veut dire aussi qu'il n'y a pas de classe supérieure dans les chrétiens, parmi les chrétiens. Il n'y a pas des super chrétiens. Il n'y a pas des chrétiens qui ont accès à Dieu plus que d'autres. N'est-ce pas? Nous avons tous accès. Il n'y a pas des chrétiens première classe, seconde classe. Cela veut dire aussi qu'il n'y a plus de secteur profane, ni de secteur sacré, ni de clergé, ni de laïc. Chaque domaine de notre vie appartient au Seigneur. Chaque domaine de notre vie appartient au Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Ça veut dire que chaque croyant en Christ est appelé à manifester la sainteté de Dieu là où le Seigneur l'a appelé, à manifester la présence de Dieu là où le Seigneur l'a appelé. Et puis encore, et puis je vais m'arrêter là parce que sinon je vais vous endormir. Lorsque Dieu dit que nous sommes des prêtres, les uns avec les autres, c'est-à-dire que nous ne sommes pas prêtres tout seuls, nous sommes prêtres ensemble, un royaume de sacrificateurs, ensemble. Et c'est pour cela que nous offrons notre culte ensemble, que nous ne faisons pas un culte séparément, ou devant la télévision, ou devant YouTube, ou de ce que vous voulez. Nous faisons notre culte ensemble et nous amenons nos louanges à Dieu ensemble. Nous sommes un royaume de prêtres, chacun d'entre nous. Alors voilà, Esdras 2, une liste qui pourrait encore nous apprendre des tas d'autres choses, mais je vais m'arrêter là. Et puis prier tout simplement pour que le Seigneur nous amène à encore plus de fraîcheur. Le Seigneur est un Dieu de grâce et de restauration. Le Seigneur est un Dieu de pardon et de renouvellement. Il ne dit jamais c'est terminé, c'est foutu pour toi. Jamais, jamais. Même lorsqu'il y a une question sans réponse, la réponse de Dieu vient, même si ça vient 70 ans après. Ça vient, la réponse de Dieu vient. Seigneur Jésus, merci pour ta parole et pour ce qu'elle nous enseigne. Merci pour la richesse, Seigneur Jésus, de ce que nous lisons dans ta parole. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui intervient dans l'histoire. Seigneur, tu te mouilles avec les hommes. Et Seigneur, comme tu t'es mouillé, Seigneur, lors de ce retour d'exil, lorsque tu réveilles le cœur de Cyrus, lorsque tu réveilles le cœur de ce peuple pour revenir à toi d'abord, puis à Jérusalem, pour rentrer dans leur vocation, Seigneur, tu te mouilles encore. Tu t'es mouillé en Jésus-Christ et tu te mouilles encore avec nous. Seigneur, et nous te disons, amène-nous, donne-nous la repentance aussi, Seigneur. Fais-nous revenir vers toi et nous reviendrons. Que ta bonté, Seigneur, nous submerge pour que nous puissions délaisser tout ce qui nous entraîne et qui nous met dans la boue et dans la fange. Seigneur, conduis-nous à manifester qui tu es dans notre vie de tous les jours, Seigneur, simplement et naturellement, mais spirituellement. Seigneur, merci parce que tu as fait de nous des croyants. Tu es venu nous chercher, nous, des fils prodigues, et tu es venu nous chercher. Et Seigneur, oui, que nous soyons renouvelés, Seigneur, dans cette vision de ton amour pour nous et de cet appel que tu nous, ce saint appel que tu nous adresses encore. Nous voulons te suivre, Seigneur, renoncer à nous-mêmes pour notre croix et, Seigneur, te suivre. Seigneur, je le veux, nous le voulons. Amen. Soyez bénis.